France Inter, le 18-20.
Il suffit finalement de presque rien, un petit bout de fémur, une dent, quelques petits os, 13 en tout, non pas pour bousculer nos certitudes, mais pour regarder en tout cas notre très lointain passé un peu différemment. Alors comme ça, il y a un nouvel homo qui s'appelle l'homo luzonensis. Il a autour de 67 000 ans, il a été découvert aux Philippines par une équipe de 4 chercheurs, pas Néandertal, pas Erectus, pas Sapiens. Mais alors, qui est-il? D'où vient-il? Comment a-t-il pu, j'allais dire atterrir ça certainement pas, mais comment a-t-il pu subitement être découvert ici sur cette île aux Philippines? Pourquoi l'a-t-on cherché là-bas? Qui a-t-il croisé cet homme-là? Sait-on à quoi il ressemblait finalement? Sait-on comment il est mort? Comment il a disparu? Chaque découverte, et c'est ça qui est formidable, c'est une foule de questions tout aussi formidables, et c'est ce qu'on va faire ce soir ensemble. Soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Alors d'habitude, le téléphone sonne, ça commence par une question des auditeurs. Là, on peut pas leur demander la lune quand même, les pauvres, puisqu'ils viennent d'apprendre, comme nous tous, cette nouvelle tout à l'heure à 19h. Je vais d'abord présenter les gens qui sont autour de la table et puis vous verrez que ça viendra tout seul. Bonjour à vous d'abord, Florent Détroit. Vous êtes paléontologue, vous êtes maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle. Je commence par vous parce que vous êtes l'un des découvreurs et vous allez nous raconter justement ce que vous avez trouvé et à quoi ça ressemble. Bonsoir à vous, Yves Coppens.
Bonsoir.
Vous êtes paléontologue, vous êtes professeur émérite au Collège de France, et bonsoir à vous, Pascal Pic.
Bonsoir.
Paléontologue aussi, maître de conférence au Collège de France aussi. Vous vous connaissez tous autour de cette table, c'est formidable. Et Sophie Bécherel aussi, bonsoir à vous, Sophie.
Bonsoir.
Florent Détroit, je commence avec vous pour que vous nous expliquiez un peu. Quand on est comme vous, qu'on fouille, on tombe sur d'abord une dent. Sophie nous racontait tout à l'heure que ça a aussi commencé par un pied. À quel moment viennent les doutes, enfin le quelque chose qui dit « Oh oh, si ça se trouve, voilà, on est devant quelque chose de différent de ce qu'on connaît habituellement. »
Alors l'histoire, c'est vrai qu'elle a commencé avec un doigt de pied. C'était en 2007.
Peu de choses. Hein.
Voilà, on est peu de choses. C'est notre collègue Philippin, qui est un des auteurs de cet article, Armand Mirales, qui fouillait et qui a trouvé, je participais pas à cette fouille, et qui a ramené un certain nombre d'ossements d'animaux. Et j'étais de passage aux Philippines et il m'a dit, tiens, est-ce que tu voudrais pas regarder cet os? Il a l'air assez bizarre, ce serait peut-être de l'homme. Et en le regardant, effectivement, ça ressemblait à de l'homme. Donc on l'a décrit, on l'a publié en 2010. Et quand on est retourné sur le site, en fait, en quelque sorte, on savait ce qu'on cherchait, on savait le niveau qu'on cherchait. Et quand on est arrivé dans ce niveau et qu'on a commencé à trouver ces petites dents et tout ça, effectivement là, assez vite, en fait, j'ai regardé ça et je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ce type d'homme?
Mais oulala, justement, c'est différent en quoi, en fait?
Alors c'est différent en quoi? Alors après, oui, c'est un peu une histoire de spécialiste, mais les dents étaient minuscules, très clairement, de morphologie humaine sans aucun doute. Une toute petite prémolaire avec 3 racines. Bon, quand on a fait un petit peu de paléontologie humaine, on sait que c'est un caractère très très ancien, très primitif, très très archaïque. Donc là, alors qu'on savait l'âge récent entre guillemets de ces restes.
Et on savait l'âge récent, c'est-à-dire
Alors que je dis récent, entre 50 000 ans et 67 000 ans pour l'instant, probablement plus.
Et juste pour finir de montrer un petit peu le tableau, pourquoi on cherche là, spécifiquement, sur ce morceau d'île-là? D'abord, on cherchait peut-être autre chose.
On cherchait autre chose, en fait. Moi, ça remonte, c'est mes travaux que j'avais commencé pendant ma thèse. Je travaillais sur Homo sapiens. En Indonésie, aux Philippines. En Indonésie, ils commençaient à découvrir des Homo sapiens un peu anciens qui nous racontaient l'histoire de l'arrivée de notre espèce dans cette zone-là. Et en fait, c'est là-dessus qu'on pensait chercher avec nos collègues philippins. Et on s'est rendu compte que c'était pas des Homo sapiens, c'était pas nous.
Et qu'est-ce que, quand on est un chercheur comme vous et qu'on tombe là-dessus et qu'on sait qu'on est tombé sur autre chose, qu'on a trouvé quelque chose, en fait, et qu'on peut dire, voilà, il y a une nouvelle espèce. Nous, on trouve ça formidable. Mais nous, on ne sait rien et nous ne sommes rien. Est-ce que vous sautez en l'air, sincèrement, ou c'est, oui, c'est bien.
On ne sait rien non plus au départ. On transpire un petit peu, on se dit peut-être que je me trompe, je me fais des idées. Donc ça, c'est par rapport à aux premières impressions sur le terrain. Après, évidemment, ça demande un temps d'analyse. Bon, la plupart des restes découverts en 2011, publiés en 2019. J'ai pas mal de collègues qui me disent, dis donc, 8 ans.
Vous mettez du temps à écrire.
Voilà. Donc, la nouvelle espèce, c'est pas quelque chose qui a surgi comme ça tout de suite.
Oui, réfléchir, oui, aussi.
Yves Coppens, c'est toujours une nouvelle particulièrement importante. Je veux dire, c'est un marqueur, une nouvelle espèce, sincèrement.
Bien sûr. Enfin, en l'occurrence, c'est une très 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 belle découverte. Mais je voulais réagir sur l'histoire du temps long. Il se trouve que moi, je suis très soucieux sur le terrain aussi. Lorsqu'on trouve quelque chose et on croit que c'est quelque chose, toute l'équipe saute de joie, moi pas. Et il se trouve que quand 8 jours après, je saute de joie, je suis tout seul. C'est fini, quoi. Mais c'est mieux ainsi, je suppose. Enfin, là, en l'occurrence, ce temps de réflexion, ce temps de description, il est précieux. Et comme vous savez, la communauté n'est pas tendre. Donc, il vaut mieux arriver avec des choses bien, bien assises. Et en l'occurrence, c'est le cas, quoi.
Pascal Pic, est-ce que ça veut dire aussi que il y en a d'autres, en fait, quelque part, qui sont encore différents et qui nous attendent? Est-ce que ça dit ça aussi, ce genre de découverte?
Ah, il y avait déjà la précédence sur les îles de Flores, mais il est vrai que si on parle souvent, pour la région là où nous sommes, l'Europe occidentale, Proche-Orient, le schéma entre Néandertal et nous, tout ce qui s'est passé, est de plus en mieux établi. Mais plus on va vers l'Est, sur l'Asie centrale, on n'a pas grand-chose, et quand même l'Asie et tout ce qui est autour des îles de la Sonde ou autres, c'est quand même des immenses régions sur lesquelles il y a vraiment très peu de choses. Et donc ces hommes se déplaçaient. On sait qu'il y a eu, avec une espèce un peu énigmatique, pour l'instant, on a son ADN qui s'appelle Denisova, il y a eu des hybridations, que nous on les a croisés, qu'on a des traces de ces gènes qui sont dans des populations aujourd'hui qui sont en Orient, c'est-à-dire en Chine, mais aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc voilà, on commence à comprendre que ça a beaucoup bougé, on s'en doutait, mais là on commence, ces éléments se mettent en place, mais on a très peu d'ancrage. Et puis il y a un grand programme depuis la découverte des hommes de Flores, et Flores est dans la région, sur l'archéologie des îles. Et il est vrai qu'on avait longtemps négligé les îles, parce que on cherchait sur les continents, et puis on se disait, ah ben non, ils n'ont pas pu y aller sur ces îles, parce que comme va l'expliquer certainement M. Détroit tout à l'heure, il fallait quand même y aller en traversant des bras de mer.
Enfin, mais c'était même s'ils sont pas très grands. Cet endroit-là, c'était une île déjà.
Oui, c'était déjà une île. Et donc là, dès que vous avez des habitats dispersés, fragmentés comme les îles, c'est très propice à ce qu'on appelle la dérive génétique, c'est-à-dire des populations qui peuvent évoluer très vite génétiquement et donner d'autres espèces, en l'occurrence celle-ci.
Et alors, une dernière question avant d'aller au standard pour l'un de vous trois. Est-ce qu'on sait si elles se sont croisées, ces espèces-là, ou finalement, elle, tranquillement dans son île, celle-là, n'a jamais croisé les autres, ou pas? Est-ce qu'il y a eu des mélanges?
On ne le sait pas vraiment. Ce qui est le plus probable, c'est qu'ils sont restés isolés un certain temps, puisqu'on constate cette dérive au niveau des caractères qui doit être due à une dérive génétique. Après, la grande question, savoir s'ils ont croisé Homo sapiens quand il est arrivé, savoir s'ils se sont croisés, battus ou fait l'amour.
Ou reproduits, ouais.
Ça, c'est des choses vraiment nouvelles qu'on est en train de découvrir dans notre monde, hein, de la préhistoire, ces phénomènes d'hybridation.
Mais en général, croiser Homo sapiens, c'est une mauvaise nouvelle à cette époque-là. Voilà.
Quelquefois, il y a des coexistences un peu bizarres.
Hein. Ouais.
Florence, c'est bien ça. L'histoire d'Afrique du Sud, où il y a un Homo sapiens qui a l'âge de celui du Maroc, dont on a beaucoup parlé, 300 000 ans. Il a été découvert à Florizipad. Et il est à côté d'un bonhomme qui s'appelle Homo naledi, qui est un drôle de petit personnage qu'on ne connaît pas encore très bien, contemporain de ce petit personnage. Et lui, ce petit personnage, il grimpe. Alors comment il se regardait? Est-ce qu'il se regardait de travers? Est-ce qu'il ne se regardait pas? Est-ce que... Comme disait Florent, ils se sont sautés dessus, je sais pas.
Est-ce qu'ils se sont pas vus? S'il y en a un qui a pas regardé en l'air, ça se trouve, il l'a pas vu, hein. Sophie, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, 67 000 ans, enfin, entre 50 et 67 000 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de la génétique, de l'ADN fossile de ces
gens? La génétique, on espère un jour. On a essayé, bien sûr. J'allais dire que malheureusement, bien sûr, ça n'a rien donné. Alors pourquoi bien sûr? Parce que là, on est dans un environnement tropical. C'est chaud, c'est humide. On sait que c'est les pires conditions pour la conservation de l'ADN. Donc on avait essayé ça avec nos collègues du Max Planck à Leipzig, qui ont été beaucoup insistants pour réessayer. Ce qu'on fera certainement un jour. Sauf que réessayer, comme ils nous disent, ça fait qu'un tout petit trou. Mais c'est à chaque fois un petit trou quand même dans un fossile. Donc là, on a décidé qu'on attendait. J'ai aucun doute sur le fait que dans 5 ans, dans 2 ans, peut-être l'année prochaine... J'y arriverons.
Bonsoir Jean-Louis. Jean-Loup, pardon, excusez-moi.
Oui, c'est Jean-Loup. Bonsoir.
Ah bah Jean-Loup. On t'écoute Jean-Loup, vas-y.
14 ans, merci Jean-Loup. D'avoir pris mon appel. Donc ma question, c'était spécialement pour Yves Coppens. Enfin, j'aimerais que ce soit lui qui réponde. Bref, je voulais savoir si, après la découverte de cette nouvelle forme d'humain, de cette nouvelle espèce d'humain, il y avait d'autres espèces à découvrir qui nous rapprocheraient peut-être plus d'Homo sapiens ou des choses comme ça. qui nous en apprendra encore plus, ou peut-être d'autres espèces qui seraient encore plus vieilles que Lucie, la grand-mère de l'humanité.
Est-ce que vous avez entendu la question, copains, parce que le haut-parleur était un peu, bas.
J'ai bien entendu, merci beaucoup. C'est gentil de s'adresser à moi d'ailleurs, parce qu'on pourrait répondre tous les trois. Mais oui, il y a sûrement beaucoup de découvertes à faire, heureusement, beaucoup, beaucoup de découvertes à faire. Et le fait justement de l'isolement, tu vois, l'isolement fait beaucoup pour le développement, pour l'inventivité de la nature. Pourquoi ? Parce que les animaux arrivent, ou les êtres humains arrivent dans des îles, ils sont isolés par excellence, hein, ça s'appelle une île, c'est pas pour rien. Et dans ces îles-là, ils vont se développer de manière autonome, ils ne seront plus en contact avec d'autres populations humaines. Et à partir de ce moment-là, ils vont s'adapter aux conditions de l'île, qui sont toujours des conditions un peu particulières, au point que dans une île, si un être humain se développe dans une île, une espèce humaine se développe dans une île, il est possible que ce soit une autre espèce qui se développe dans l'île à côté. On a l'exemple, moi j'ai travaillé beaucoup sur les éléphants, pardon, c'est une grosse bête, mais ça va être rapide quand même.
On la voit mieux.
Les éléphants dans les îles de la Méditerranée, aussi dans les îles de la Sonde d'ailleurs, mais dans les îles de la Méditerranée, l'éléphant qu'on trouve en Sardaigne n'est pas du tout celui qu'on trouve à Malte, n'est pas du tout celui qu'on trouve en Sicile, n'est pas du tout celui qu'on trouve à Chypre, n'est pas celui qu'on trouve en Crète. Et à chaque fois, ce sont des bêtes différentes, des bêtes un tout petit peu différentes les unes des autres. Donc peut-être que dans les autres îles nombreuses des Philippines, il y aura aussi des découvertes.
Mais du coup, Florent Détroit, est-ce qu'on cherche ça en fait désormais? C'est-à-dire une fois qu'on a trouvé cette nouvelle espèce, on se dit eh ben maintenant, je vais chercher la même pour voir où elle a voyagé, si elle a traversé une île, si elle a été sur un continent ou autre.
Oui et non, en fait, faut se rendre compte peut-être qu'il y a quand même peu de gens qui cherchent. Hein.
Ouais.
On est une toute petite communauté. Il faut beaucoup de patience, souvent très ingrat. Ouais. On passe beaucoup de temps à ne rien trouver. Alors c'est pas vrai qu'on trouve rien. On trouve plein de choses fantastiques, mais qui n'attirent pas forcément l'intérêt et qui sont pas très valorisantes. Alors vous dire que grâce à cette découverte, ça va motiver d'autres collègues à retourner sur le terrain, j'espère.
Oui,
c'est ce qui s'était passé avec mon collègue philippin quand même. La découverte d'Homo floresiensis l'avait vraiment persuadé qu'il y avait quelque chose à trouver aussi aux Philippines.
Alors pour compléter la réponse à la question de Lucie à Luzon, on peut dire. Hein.
Ouais.
Bah, pardonnez-moi, c'est un peu facile, mais il est très clair que...
J'y avais pas pensé.
Oui, ça m'étonne un peu quand même. depuis une vingtaine d'années, il est vrai qu'il y a de plus en plus de découvertes avec une grande diversité d'espèces contemporaines. Donc, comme Yves Coppens l'appelait, c'est le bouquet des ancêtres, et ce bouquet ne cesse de s'étoffer. Et plus on va chercher dans des régions périphériques, plus on aura, comme ça a été dit, de chances d'avoir des petits groupes comme ça qui se sont isolés, parce qu'ils ont perdu contact avec les autres.
Et comme vous dites, Lucie Aluzzo, pardon Sophie, excusez-moi.
Je voulais juste, pardonnez-moi, mais revenir sur votre question, est-ce qu'on va chercher partout. Mais il faut imaginer que, outre le faible nombre d'équipes, c'est que la planète est grande. Et par exemple, le site de fouille de Florent, c'est 4 mètres carrés dans cette grotte. Donc, et il a fallu des années. Donc on y va tout doucement, au pinceau, à l'outil de dentiste, etc. Donc vous voyez, c'est pas votre détecteur de métaux sur la plage et puis vous attendez que ça sonne.
Hein, 2,50 m d'argile au-dessus à enlever.
Voilà, autant que détecteur de métaux.
Il y a du boulot quand même.
Visiblement, les dents ne sont pas en or. C'est moins qu'on puisse dire. Pascal Pic parlait de Lucie Aluzzo. Florent Détroit, il va falloir lui trouver un nom, non? Vous n'allez pas le laisser tout seul en homo Luzonensis, honnêtement.
Non, oui, j'étais bien conscient que ce serait un problème pour les Français comme prononciation.
Ouais.
Mais on n'a pas trop d'idées, en fait. On a des petites anecdotes de fouilles qui vont certainement nous servir, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose là ces derniers jours. On va y réfléchir, on va se mettre d'accord.
Et alors, pardon, mais c'est un garçon ou une fille?
On n'en a absolument aucune
idée. D'accord. Est-ce qu'on peut en avoir une idée? Est-ce qu'on le saura un moment ou pas?
Par des moyens analytiques comme la génétique, on pourra. Peut-être. Mais morphologiquement, c'est tellement différent de nous qu'on n'a pas de référentiel.
Même sur les dents, c'est très difficile dans les espèces humaines de distinguer les mâles des femelles. Chez les singes, on y arrive. Un peu chez les australopithèques, mais avec beaucoup de difficultés.
Ah,
mais
les yeux.
Dans le genre humain, c'est très compliqué.
C'est en partie le sens de la question de Cécilia. Bonsoir Cécilia.
Bonsoir à tous. Et une pensée pour Michel Brunet. Au passage, j'ai pris l'émission en cours de route et je voudrais simplement donc vous demander quel est l'âge de l'ISO et la question quelles sont les méthodes de datation que vous avez utilisées pour dater les pièces, les fragments,
Dominidée, trouvée.
Merci beaucoup, Cécilia Voyer, Florent Détroit, il s'appelle déjà Luzo, donc allez-y, c'est bien pratique comme ça. La méthode de datation?
Alors la méthode de datation, ce sont les séries de l'uranium, ou uranium-thorium, en fait c'est la dégradation des éléments de l'uranium. Alors pourquoi celle? Déjà ça nous permet de faire des datations directement sur les ossements et sur les dents. Mm-hmm. Encore une fois, ça fait des trous, on n'aime pas trop, mais voilà, il faut connaître l'âge. Et pourquoi cette méthode, alors qu'il y a quand même une marge d'incertitude assez grande? C'est parce qu'on est dans des âges où le carbone 14 ne fonctionne plus, et toutes les autres méthodes qu'on a essayées sur le site, alors sur les sédiments, sur les couches géologiques, pas sur les fossiles, ont échoué. Donc on s'est concentré sur cette méthode, c'est notre collègue Rainer Grün à Griffith University qui a fait ça. Et donc on a obtenu sur deux fossiles, deux âges différents. Le premier c'est 50 000 ans ou plus, je reviendrai sur le ou plus. Mm-hmm. Et le deuxième fossile c'est 60 000 ans ou plus. Alors pourquoi ou plus? C'est-à-dire 67 000 ans ou plus vieux. Parce que les séries de l'uranium nous donnent des âges minimums.
D'accord. Cédric nous appelle, il vient de Lille. Bonsoir Cédric.
Oui bonsoir.
Essayez de bien. J'ai
une petite question, bonsoir à tous. J'aurais voulu savoir comment vous pouvez savoir que c'est une nouvelle branche dans la famille plutôt qu'un individu différent au sein des Homo sapiens. C'est ça qui m'intéresserait.
Merci beaucoup pour cette question. Qui veut répondre? Yves Coppens.
Bah oui, c'est toujours la même chose. Hein. Quand on trouve un individu, on se dit, est-ce que c'est pas un cas pathologique? Est-ce que ce n'est pas un cas particulier? On n'en sait rien. Et le drame de la paléontologie, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de statistiques. Alors, ce serait un manque de chance, évidemment, de tomber juste sur l'individu malade. D'ailleurs, quand il est malade, en général, ça se voit sur les os. Mais que ce soit un individu particulier. On a dit ça de Néandertal. Hein. Quand on a trouvé Néandertal pour la première fois, on s'est dit, c'est un type qui a pris des coups sur la tête et qui a eu de l'arthrose en vieillissant. Et puis, on s'est aperçu que les autres étaient de la même chose, de la même trempe. Et finalement, c'est devenu une espèce à part entière.
Il y a Luzo donc, qui vient d'appeler Sophie Mécherel sur son portable.
Donc ça reste, bien sûr, et Florence, c'est bien ça. Ça restera comme ça, un individu, avant qu'on en trouve d'autres. On a dit la même chose pour Florès aussi. Mmh. On a dit c'est un petit bonhomme de rien du tout, mais tous les autres sont normaux. C'est pas vrai du tout. Donc espérons, enfin c'est l'espoir du paléontologue, c'est que l'individu qu'il trouve soit un individu moyen en quelque sorte. C'est jamais le cas. Hein, mais...
C'est le sens de la question de Jules de Villeneuve-d'Ascq, Pascal Pic. Est-ce qu'on sera capable à un moment, à partir de ces restes-là, de modéliser un corps, connaître au moins une taille, savoir si ce tenait droit, pas droit, la forme du visage, etc. Jusqu'où on peut aller pour voir à quoi il ressemblait en fait le petit Luzo?
C'est une vieille histoire qui remonte à Georges Cuvier, ça, qui nous racontait qu'avec une dent, il nous refaisait toute la bête. Oui, on peut faire de la constitution, mais là, c'est à mon collègue Détroit de répondre, à Florent, c'est que, bon, il y a un os de pied, voilà, maintenant, c'est pas à moi de donner l'interprétation, c'est vrai que cet os de pied est un peu particulier, est-ce que c'est lié à une adaptation avec encore un reste, un petit peu d'arboricolisme, pour cette période-là, ça m'étonnerait beaucoup, ou en l'occurrence, des déformations qui sont liées à la taille, justement, voilà, donc c'est les questions qui se posent aujourd'hui, sans parler forcément de malformations.
Sophie d'abord. L'homme de Florès qu'on a trouvé en Indonésie était tout petit. Est-ce que quand on retrouve des espèces sur les îles, elles sont forcément plus petites que d'autres? Parce que, comme l'expliquait Yves Coppens, il faut vivre avec ce qu'il y a sur l'île.
Non, juste un mot. Non, on dit que les bêtes, à ce moment-là, se trouvant dans un milieu moins riche, se trouvant dans un milieu avec moins de prédation, moins de carnivores, moins de prédateurs, vont vers un idéal énergétique. L'idéal énergétique, enfin autrement dit, on mesure sa taille aux besoins dont on peut avoir à disposer, et ça peut être d'une nanie, ça peut être du gigantisme. Il y a aussi des bêtes très 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 importantes, il y a aussi des petites bêtes. Et c'est souvent du nanisme, majoritairement du nanisme, mais le gigantisme, ça existe aussi.
Florent, pour répondre un peu à la question, effectivement, tout à l'heure aussi, est-ce que vous savez que vous pourrez avoir une idée? Alors, effectivement, on n'est pas dans la science-fiction, on ne va pas refaire sa taille, sa tête et sa couleur de cheveux, mais est-ce qu'on peut avoir une idée de sa taille, au moins, de sa posture?
Alors, sa taille et sa posture, on peut et on va essayer, mais sur des points vraiment très précis. On a quand même quelques indicateurs qui vont être intéressants à explorer. Les dents sont très petites, vraiment très très petites. Et on sait que chez les primates, en général, la taille des dents est assez fortement liée à la masse corporelle. Donc probablement un petit hominine. Mais attention, parce qu'il y a plein d'exceptions, en particulier dans le genre homo. hein, Homo habilis qui était tout petit avec des très grosses dents. Donc c'est une indication que très probablement il était petit, mais...
On ne sait pas quel âge il avait quand il est mort, par exemple. On ne sait pas si c'était un très jeune adulte.
Alors,
un enfant,
on a deux adultes. On sait qu'on a deux adultes. Il y en a un qui est assez bien représenté. On a plusieurs dents pour lui. On sait pourquoi on dit qu'il est adulte, parce qu'on a une troisième molaire. C'est notre dent de sagesse. Ouais. Bon, on considère en général que c'est un indicateur d'âge adulte. Et on a une deuxième, troisième molaire. Donc, on a au moins deux adultes. Après, deuxième, troisième molaire droite. Donc, deux fois le même élément. Et puis, on a un petit fémur d'un petit enfant. Donc, on a trois individus, dont deux adultes. Donc, ces dents, hein, ce sont bien des dents, ce ne sont pas des dents de lait, hein, ce sont des dents permanentes. Pour ce qui est de la posture, alors c'est aussi une grande, grande question, parce que tous ces caractères très primitifs qu'on retrouve sur les os des pieds, c'est quand même des caractères qu'on ne connaît pas dans le genre homo, qu'on retrouve chez Australopithecus, et c'est classiquement ces caractères qu'on interprète comme des évidences de ce mode locomoteur mixte, bipède au sol, arboricole dans les arbres. Alors de là à dire qu'Homo lusonensis s'était retourné dans les arbres, on va pas trop s'emballer, mais il y a quand même quelque chose, ne serait-ce que d'essayer de comprendre l'effet de ces caractères sur la démarche d'Homo lusonensis. En particulier, on a les zones d'insertion des muscles fléchisseurs du pied qui sont très très marquées. Les muscles fléchisseurs des pieds, chez nous, aujourd'hui, on ne s'en sert plus très souvent. Hein. On n'est plus capable d'attraper une branche avec notre pied replié. Hein.
Et qu'est-ce que ça nous apprend de nous, en fait, Yves Coppens ou Pascal Pitt, une découverte comme ça, nous, aujourd'hui, en 2019, est-ce que ça nous apprend des choses sur nous ou pas?
Oui, ça nous apprend qu'on est des mammifères comme les autres. Et qu'on s'est développé exactement comme les autres primates, avec cette floraison de... c'est pour ça qu'il s'appelle Florent d'ailleurs, cette floraison de formes auxquelles il fallait s'attendre. Mm-hmm. On est toujours surpris lorsqu'on s'aperçoit que l'homme répond aux mêmes devoirs, aux mêmes habitudes, aux mêmes pressions que les autres animaux. Et en fait... on a beau avoir développé une culture qui, en effet, rétroagit sur la nature, on reste très soumis au milieu, à l'environnement. Et l'histoire du petit bonhomme de Flores, qui lui aussi n'est pas très âgé. Hein. Mm-hmm. On a dit 40 000 ans au départ, je crois que ça a un petit peu augmenté, mais enfin, il est de toute façon pas très vieux. Et puis l'exemple de celui-là, l'exemple de Naledi dont on parlait tout à l'heure, montre que la pression du milieu est aussi active sur nous. Moi, j'ai hâte qu'on aille sur Mars, parce que la petite équipe qui va rester là-bas, comme je le disais tout à l'heure, cette petite équipe, du point de vue de l'ingénierie, on saura tout à fait aller la voir, mais du point de vue des budgets, ça traînera comme d'habitude. Et quand on ira les voir, on sera étonné de voir que les petits qu'ils ont fabriqués seront très différents de ceux qu'on a continué à faire sur Terre, qui seront aussi différents des nôtres d'aujourd'hui.
Pascal Pic, parce que je sais qu'il faut que je vous laisse partir.
Oui, ça nous apprend beaucoup de choses. C'est que longtemps, on a dit, et ça m'a été enseigné, et puis évidemment, j'ai adhéré à cette idée-là, que nous, les humains, nous étions sortis des contraintes de la sélection naturelle au sens large. Et là, on redécouvre qu'effectivement, par exemple, ce que disait F. Coppens à l'instant, c'est dans toutes les îles, on voit que les grandes espèces deviennent petites et les petites deviennent grandes. Et puis, les prédateurs au milieu sont très peu présents. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'on s'aperçoit également que les choix alimentaires de nos ancêtres, leurs choix culturels, ont à la fois sélectionné l'expression des gènes, ce qu'on appelle l'épigénétique aujourd'hui, ça se transmet, on le sait maintenant, mais également nos gènes. Par exemple, le fait de boire du lait ou autre, ça c'est beaucoup plus récent, je vous l'accorde, mais façonne une partie des gènes des populations européennes. Donc en fait, ce que ça nous apprend, c'est que nous sommes des espèces très plastiques qui peuvent changer très rapidement d'un point de vue morphologique, qui est la taille et la forme, physiologique, les fonctions de l'organisme, et même cognitif, tout ça évidemment est plus ou moins lié, et des découvertes comme celle-ci sont très importantes pour montrer que les espèces humaines ont une adaptabilité absolument extraordinaire, qui évidemment nous donne des leçons sur le monde d'aujourd'hui avec les changements que nous connaissons.
Merci beaucoup. Je vous remercie parce que je sais qu'il faut que je vous laisse partir.
Et
merci,
c'est très aimable à vous.
Et... merci beaucoup de ce passage dans le téléphone sonne. Vous reviendrez évidemment quand vous voulez. Sophie, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, aujourd'hui, il n'y a plus que Homo sapiens. Et Florent disait, voilà, s'ils se sont rencontrés, bon ben voilà, finalement c'est Homo lusonensis qui aura perdu. Il fait pas bon de croiser Homo sapiens, ou finalement c'est une autre raison qui pourrait expliquer sa disparition?
Moi, tous ces gens-là ont été prédateurs comme nous le sommes aujourd'hui, mais il se trouve que du point de vue démographique, l'Homo sapiens s'est agrandi de façon extraordinaire, hein, En gros, quelques milliers d'individus au départ, il faut arriver à 1815, je crois, pour avoir le premier milliard d'individus à la fois. Et entre 1815 et aujourd'hui, de 1 milliard, on passe à 8 milliards. C'est-à-dire qu'il faut 3 millions d'années pour faire 1 milliard, et puis il faut 200 ans pour faire 8 milliards.
Bonsoir. Donc, pardon, excusez-moi.
Non, il n'y a pas de mal. Non, ça veut dire qu'il y a des liens entre nous et qu'aujourd'hui, le métissage se fait d'autant plus facilement qu'on se rencontre partout.
Les liens entre nous, tiens, c'est aussi la question d'Antoine. Bonsoir, Antoine.
Oui, bonsoir.
Soyez
à tous.
Soyez le bienvenu, Antoine.
Merci pour vos émissions et particulièrement celle-ci. Est-ce que cette découverte peut remettre en cause la théorie de l'Afrique comme berceau de l'humanité, ou est-ce qu'on reste dans une sortie progressive, d'homo de l'Afrique? Ou est-ce qu'à minima, ça peut changer un peu le calendrier ou la séquence de cette sortie progressive d'Afrique vers l'ensemble des continents, dont le continent asiatique?
Florent, d'autant que le quel est le titre déjà de l'article dans Nature, Sophie?
Out of Asia,
sortie et non d'Asie. Pas Out of Africa, justement.
Alors, c'est pas nous qui avons choisi le titre, hein, vous vous doutez bien. C'est,
d'accord.
C'était un petit teasing de la part de Nature.
Mais c'est un peu le sens de la question d'Antoine, au fond.
Exactement.
C'est ça que ça dit,
ouais. Alors, j'ai beaucoup hésité. Je voulais leur expliquer que c'était pas une bonne idée, ce titre.
C'est vrai?
Parce que ça ne remet en rien la sortie d'Afrique et d'accord. L'origine africaine du genre homo, de notre espèce homo sapiens. En tout cas, c'est mon avis. Hein. Cette découverte-là, en particulier, ne remet pas du tout ça en cause. Après, on a bien compris que le Out of Asia, c'était quelque chose de nouveau sorti d'Asie, et pas prétendre que l'origine était en Asie.
Oui, juste quelques mots sur les chiffres. Le bonhomme a 3 millions d'années, il sort d'Afrique autour de 2 millions et demi d'années, et puis l'homme moderne apparaît à nouveau en Afrique aussi, et lui autour de quelques centaines de milliers d'années. On le trouve hors d'Afrique vers 200 000 ans en Israël par exemple, là on est à 50 000 ans. Donc pour le moment, la science est froide. Donc elle fait avec ce qu'elle trouve, et tout a l'air de se passer comme si les sorties d'Afrique étaient celles que l'on a déjà décrites, et qu'on soit dans une des floraisons de cet homme hors d'Afrique, et notamment dans la partie insulaire.
Roland, bonsoir, soyez le bienvenu.
Bonsoir.
On vous écoute, Roland.
Oui, je pense que ma question a déjà été répondue en partie. Je voulais savoir qu'est-ce qu'apportait ce genre de découverte à la science en général, par rapport à des découvertes, par exemple, ceux dont parlait
Roland. Ah ben, on a perdu Roland en route, c'est dommage, il n'avait pas tout à fait fini sa question. Est-ce que, au-delà de votre spécialité de la paléontologie, est-ce que la science tire bénéfice de ce genre de découverte ou pas, Florent Détroit? Et encore, je ne veux pas vous piéger.
Non, c'est une vaste question. Je pensais tout à l'heure, par exemple, aussi ce que ça apporte, c'est de se rendre compte que vraiment, aujourd'hui, on est tout seul sur Terre, hein, Homo sapiens, on se sent un peu seul. Si on remonte un tout petit peu dans le passé, on se rend compte que c'était clairement pas du tout le cas. Donc ça, peut-être, si on veut sortir du champ purement scientifique, ça peut y répondre un petit peu. Après, c'est une belle découverte sur laquelle il y a tout un tas de spécialités qui se mettent en œuvre, de disciplines, de méthodes qui sont appliquées. Après, je suis bien conscient que c'est pas un petit ensemble de fossiles qui va changer la face de la science.
Non, bah ne diminuez pas les mérites et ceux de l'USO non plus, qu'on aura donc décidément affublé d'un petit nom. Bonsoir Michel. Pardon, cherchez son prénom. Bonsoir Michel.
Oui, allô?
Allez-y Michel, on vous écoute.
Oui, bonjour, merci de me prendre. Je voulais savoir comment distingue-t-on le fait que ce n'est pas des restes d'une lignée humaine ou des restes d'une lignée de singes, de grands singes? Sait-on bien caractériser le fait que ce sont bien des humains?
Florent Détroit, c'est pour vous.
C'est une très bonne question, parce que je vous avoue que le jour où on a commencé à trouver les dents, j'ai eu un très gros doute. Qui était vraiment un très gros doute, hein, parce que sur l'île de Luçon, on ne connaît aucun autre primate que l'homme. Visiblement, aucun primate n'a réussi à accéder à cette île, à part nous, enfin à part nous, au sens large, hein, le genre homo. Donc, ça c'est toujours été possible, hein, mais après toutes les analyses, les comparaisons et tout ça, c'est très très clair, l'ensemble des caractères, même très particuliers comme on le montre là dans cette étude, indique qu'il s'agit clairement d'un homme.
Mais est-ce qu'on sait comment il a atterri d'ailleurs sur l'île de Lousson, honnêtement, parce que vous le disiez, c'était déjà une île, donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il vient y faire? J'imagine qu'on allait nulle part par hasard à ces époques-là. Donc qu'est-ce qu'il vient faire là?
Alors,
et d'ailleurs, elle était
comment?
Et comment, oui,
et comment,
il accède comment?
Alors comment, ça, je pense qu'on ne saura jamais. Hein. Le pourquoi, peut-être encore moins, sauf que je dis toujours à mes étudiants que l'homme est curieux, donc il ne faut pas s'étonner de trouver l'homme un peu partout à des périodes très anciennes.
Et opportuniste, oui.
Opportuniste. Mmh. Alors après, il y a toujours ce vieux, enfin, ce réflexe un peu éculé de dire mais non, la navigation, c'est uniquement notre espèce Homo sapiens. Homo erectus n'était pas assez intelligent pour ça. Donc ils ont dû arriver par là-bas sur un radeau naturel après un tsunami ou je ne sais quoi. Sauf qu'on ne s'installe pas et on ne fonde pas une population viable en arrivant une seule fois par hasard à l'occasion d'un tsunami. Et je pense qu'il faut commencer à accepter, on en parlait avec Pascal Pic juste avant, l'idée que Homo erectus ou de certains de nos très vieux ancêtres n'étaient pas si effrayés que ça par la mer et devaient faire du cabotage ou des petites distances. Et peut-être que parfois ils se retrouvaient un petit peu plus loin que prévu au départ, mais en condition de bonne visibilité, quand on voit quelque chose au loin, à mon avis, ça donne envie d'y aller.
C'est pour ça que c'est assez curieux, mais dans la plupart des îles, les premiers occupants, ce sont les proboscidiens, les éléphants ou les stégodontes ou les mastodontes, et les humains. Ce sont toujours les deux qui arrivent les premiers. Et moi, j'ai vu entre le continent et quelques îles, pas très loin de la côte, sur la côte orientale de l'Afrique, des éléphants passer. C'est drôle, parce qu'au milieu de la mangrove, on voit une trompe qui s'agite et qui respire. Et les éléphants osent passer les tout petits secteurs, quoi. Ça veut dire les tout petits détroits.
Justement, on sait la distance à l'époque d'ailleurs entre le continent ou une île plus grosse, j'en sais rien, et cette petite île.
Elle est à peu près la même qu'aujourd'hui. Je vous avoue que je voulais vérifier avant de venir la distance exacte. Non, elle était un peu plus courte puisque s'ils sont venus de Chine continentale via Taïwan, en période de bas niveau marin, pendant le quaternaire, pendant les périodes glaciaires, en période de bas niveau marin, on pouvait aller de Chine à Taïwan à pied sec. Par contre, une fois qu'on est à Taïwan, si on veut aller dans la grande île de Lousson, au nord des Philippines, il faut traverser une mer qui n'est pas très facile.
Il n'y a aucune chance que ça soit fait à pied, en gros.
Il n'y a aucune chance que ça soit fait à pied.
Qu'est-ce que vous pensez de la théorie d'un énorme bout de terre qui se détache du continent et qui amène comme ça et dépose les hommes au gré des
Ce qu'on pense, c'est que, en ce qui me concerne, je ne suis géologue que de manière secondaire, si je puis dire. Non pas que j'étudie le secondaire, mais paléontologue d'abord et géologue un peu. Les géologues le verraient. Enfin, les géologues savent bien la façon dont les continents ou les îles finalement se sont mises en place et comment elles ont bougé. Et peut-être qu'on ne sait pas toute l'histoire du fond de la mer de Chine et peut-être qu'on aura des informations à cet égard, mais c'est pas de notre compétence, si je peux dire.
Sylvain, ce sera la dernière question que la vôtre. Merci beaucoup de nous appeler et on vous écoute.
Oui, bonsoir, merci. Ma question est un peu autour de l'ADN et de la génétique et sur le fait que vous affirmez depuis le début, surtout au début de l'émission, vous avez parlé beaucoup de nouvelles espèces. Or, si j'ai bien compris ce qui a été dit, vous n'avez pas de fragments d'ADN, en tout cas pas encore analysé. Donc comment pouvez-vous affirmer qu'il s'agit d'une nouvelle espèce et non pas peut-être d'un groupe qui aurait développé des caractéristiques, des traits particuliers parce qu'ils étaient dans un environnement spécial, comme l'a expliqué Yves Coppens. Et du coup, il y a une question tiroir qui est qu'aujourd'hui, nous, par exemple, en Europe, on sait qu'on a un petit morceau d'ADN des néandertales qui subsistent en nous. Et voilà. Et pourquoi, et comment, qu'est-ce qu'on aurait hérité, notamment en Asie du Sud-Est, par exemple, de ce genre de population? Est-ce qu'il resterait des traces qu'on pourrait trouver maintenant dans l'ADN de ces populations qui pourraient dire, c'était il y a pas longtemps, c'était il y a 50 000 ans, donc pourquoi ils ont peut-être pas disparu d'un coup, il y a peut-être eu des mixages, des mélanges, et qu'aujourd'hui on pourrait retrouver aussi de dire, quelques pourcents de l'ADN viendraient de ces gens-là. Voilà un peu ma question autour de cet héritage.
Merci beaucoup, Sylvain, Florent Détroit.
Alors c'est une vaste question, si je vois bien, il nous reste 2 minutes. Alors pour faire simple, ça c'est vrai que beaucoup de gens pensent ça parce qu'ils ont en tête cette fameuse définition biologique de l'espèce, qu'on appartient à la même espèce quand on est interfécond et que notre descendance est viable et elle-même féconde. On sait, juste un tout petit exemple très récent, qui nous montre que cette définition de l'espèce, elle fonctionne pas très bien. Le réchauffement climatique provoque un recouvrement des zones de répartition du grizzly et de l'ours blanc, l'ours polaire, qui sont complètement différents morphologiquement, qui sont adaptés à des alimentations complètement différentes, qui ont vécu une histoire évolutive complètement différente, qui portent deux noms d'espèces différents. Et on se rend compte que quand ils se rencontrent, ben, ils correspondent encore à la définition biologique de l'espèce. Tout ça pour dire que cette définition biologique de l'espèce ne fonctionne pas très bien pour des organismes vivants. Donc on peut clairement pas l'appliquer à des organismes paléontologiques. Quand on parle d'espèces, on ne prétend pas qu'ils n'étaient pas, qu'ils ne se reproduisaient pas. C'est juste pour, j'allais dire, juste pour marquer le coup qu'ils sont différents et qu'il y a quelque chose à aller chercher pour expliquer ces différences.
Et quand on a quand même des pieds d'Australopithèque, de préhumains, et quand on a le reste du corps, les dents par exemple, en dehors de quelques caractères très, très humaines, il y a de quoi quand même, pour le moment, ne serait-ce que pour s'en souvenir, créer une espèce différente, même si en outre, et plus tard, elle va se fondre avec d'autres.
Merci beaucoup, merci vraiment à tous, merci de vos questions, nombreuses questions comme d'habitude au téléphone sonne dans un instant, évidemment ce sera Laure Adler pour L'Heure Bleue, bonsoir Laure.
Bonsoir Fabienne, nous avons la chance de pouvoir parler du féminisme aujourd'hui, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup.
Eh bien comme nous toutes et nous tous, merci beaucoup Laure et à tout à l'heure, il est 20h sur Inter.